Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
bah, tu savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h.
Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios.
La plus rebelle des radios.
Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton vol volé et ton fléchis. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est qu'un mis en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
J'ai pas dit.
Et salut, bonsoir et bienvenue sur le Canu Info du vendredi, ça y est c'est l'heure.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui on va vous parler de plein de choses dans le Canu Info, on va commencer comme d'habitude par une rubrique locale et cette fois-ci avec un petit reportage sur l'épicier de la rue Bouteille.
Ensuite on vous présentera notre tout nouveau préfet du Rhône et de la région qui s'appelle Stéphane Bouillon, vous verrez c'est un chic type.
Et ensuite, pourquoi pas, aujourd'hui aussi, des vauquiaiseries. Et après, on ira au niveau du national et au national, on vous parlera du rendu du procès AZF.
Et ensuite, on vous parlera de l'état d'urgence de retour.
L'état d'urgence, il fait son perpétuel retour. Un autre truc qui fait son perpétuel retour sont les expulsions, les squats et la trêve hivernale. Alors, on fera un point sur le début de la trêve hivernale.
Et ensuite, on vous racontera comment Macron soutient les mines d'or en Guyane.
Et comme au Canu Info, on adore les interviews en direct du côté de l'international, on finira par une discussion avec un camarade italien sur la fabrication de documentaires médiactivistes en Italie.
Et puis on passera au traditionnel agenda. Pour l'instant, en guise d'info locale, on fait de l'info ultra locale. On part rue Bouteille. Rue Bouteille, c'est environ à 40 mètres de nos studios.
L'épicerie ici, le premier qui a été ouvert, c'était en 1947. Ça s'appelait au Bondley, c'était juste après une gare, deuxième gare. Et les gens, ils venaient pour tout ce qui est fromage, crèmerie, tout ça. Et puis, petit à petit, ça a changé dans les autres chaînes. Et puis, dans les années 90, je crois, fin 80, il y avait la chaîne Express. Suite à ça, il y a eu des familles tunisiennes qui sont spécialisées dans tout ce qui est alimentation générale CO qui ont pris. Et puis, ça a continué. En 95, le propriétaire actuel des murs, c'est lui qui était là pour quelques années. Et puis, il a vendu juste le fond à un autre monsieur aussi de Tunisie, je crois. Et puis ça a été revendu à monsieur Kamel qui était juste avant moi.
Radio Canu!
Reportage.
Je m'appelle Walid, 44 ans. Je suis installé ici depuis 2011 pour l'épicerie. Panier sympa, 10 rue Touré, rue Bouteille. Bon, tout le monde l'appelle l'épicerie de rue Bouteille parce que. Oui, en Bouteille est beaucoup plus connu que Touré. Et puis, c'est Bouteille, alors on vient ici pour les bouteilles. Moi, avant, j'ouvrais très tôt, à 7h30, 8h. Et petit à petit, j'ai vu que ça n'allait pas la peine parce que je travaillais tard le soir. Et sur ce contexte-là, je dirais, je commence vers 10h. Mais juste de 10h à midi, c'est. Quelques clients, les élèves qui sortent à 11h, bon, les parents qui prennent des petits gâteaux, des choses. À 11h, après, de 11h jusqu'à 1h, J'ai des clients, des réguliers qui viennent pour leur petit beurre. Et après, ça se calme comme ça. Il y a un ou deux par-ci, par-là. Et ça recommence vers 17h, 17h30. Et ça va jusqu'au 20h, 21h. Ça tourne. Et puis, ça se calme. Et puis, c'est les groupes. Ici, la rue Bouteille, ou ce petit quartier, je dirais, je l'appelle un petit village dans, au centre-ville, quoi. Parce que, et cet esprit, j'ai essayé de le développer beaucoup depuis ces années que je suis là, entre les gens, pour dire que c'est un petit village, que tout le monde doit se connaître, pour que tout le monde... Et le magasin reste, c'est vrai que le magasin reste un peu le point de ce passage et de ce contact.
Il y a aussi, j'imagine, toute la clientèle de nuit qui vient beaucoup chercher de la bière.
Oui, notamment vos copains. Si vous voulez. Mais c'est vrai que la Radio Connue a été toujours un bon client aussi, les membres. Et oui, il y a la clientèle. Nous, si on ne vend pas l'alcool, on est foutus. C'est vrai que la nuit, le soir, à partir de 18h, les étudiants, les gens qui finissent leur boulot, ils viennent prendre leur petite bière. L'intensité de vendre l'alcool, oui, c'est vrai que c'est important. Bon, après, les week-ends, c'est beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est ouvert jusqu'à 1h du matin, le vendredi et le samedi. Pour récupérer aussi un peu la semaine, parce que la semaine c'est calme. À partir de 23h, même je dirais 21h30, 22h, mais moi je reste toujours ouvert jusqu'à 23h. Alors, 1€, 50€, 2€, 50€.
30. Bon,
je te remets. C'est bon, t'inquiète.
Merci.
T'inquiète,
c'est cool.
Bonne allez, journée. Salut, bye. C'est les grandes surfaces qui sont venues chercher le cadre en centre-ville. Les cadres qui étaient nos clients, nous, les petits, le petit magasin de quartier. Et quand eux, ils sont venus, est-ce qu'il n'y a pas un plan arrière pour nous faire disparaître, je sais pas. C'est toujours comme j'avais fait une lettre il y a un an et demi, je vais vous mettre la copie. J'avais donné à monsieur, madame la maire, j'avais mis partout dans le quartier. On est en train de se confronter sur le pot de fer contre le pot de terre. Bon, voilà, on peut pas leur battre, mais eux, ils arrivent agressivement. Regardez le service, la chaîne de casino, ils sont là tous les 300 mètres, 400 mètres. Et Franprix, c'est casino, Monop, c'est casino, Casino Shop, c'est casino, Maréchal, c'est casino. Et donc, nous, on n'a pas à respirer, quoi. C'est comme s'il faut qu'on soit éliminé totalement. Nous, je ne peux pas venir à 9h de soir ou à 10h de soir pour travailler jusqu'aux 6h. Premièrement, vendre l'alcool, c'est interdit le soir, bon, par rapport à ce qu'on a évoqué. Et deuxièmement, j'ai une vie de famille avec 3 enfants. Je suis tout seul. Ma femme est décédée. Alors, vous voyez, toutes ces difficultés, on ne peut pas... Enfin, je sais que mes problèmes ne sont pas les problèmes des autres. J'évoque juste par rapport à ma situation. Mais... l'agressivité des grosses économies comme le groupe connu Casino ou autre qui viennent ici pour nous détruire, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est la gare commerciale? Oui, moi je suis d'accord, mais nous on ne peut pas se comparer avec eux. Jamais on peut, moi je ne serai jamais dans la position de m'abattre contre Carrefour ou Casino ou Monop ou autre, quoi. C'est pas possible. Et les grandes surfaces, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont venus en ville pour chercher la clientèle. Parce que de ville, moi, le gars qui se gare ici avec sa voiture, il va pas la déplacer pour les semaines pour aller jusqu'au Auchan ou Carrefour hors de ville. Parce qu'il va par cette place, il ne peut pas trouver le parking, c'est un cauchemar. Ou bien les drives qui sont arrivés maintenant. Ils appellent à 50 euros, le camion arrête toutes les soirs devant chez moi, de Carrefour et d'Auchan et machin, pour qu'ils soient livrés avec les cartons. Tout à fait vrai. Je dis encore, nous, on n'est pas là. Moi, je demande pas que les gens viennent faire leurs courses chez moi. C'est pas possible. Parce que je suis à 1000 ou 2000 articles de produits, alors que Carrefour, c'est 50 000, 60 000. Ça je dis pas le contraire. Par contre, eux, ils nous ont même pas laissé cette possibilité de dépannage qu'on est censé être. En anglais, convenience store, on doit être pour le, enfin, se faciliter pour les gens qu'on peut donner, c'est aussi prise quoi, par eux. Et ça, bon, je ne peux pas changer ni la mentalité des gens, ni le grand surface. Quoi, c'est... Les gens de quartier qui, s'ils veulent que les petits commerces comme nous vivent plus longtemps et puis dans la humanité des choses, il faut se servir un peu plus chez nous, quoi, je dirais. Sans dire que bon, j'y vais certainement chez Franprix parce que la salade qui est chez Panier Sympa est à 3,90 alors que là-bas je peux l'avoir à 3,50 par exemple. Je dis aussi que bon, dans le quartier, le pouvoir d'achat il n'est pas aussi mal. Et on est un Lyon premier, et puis je crois qu'on a des cadres. Je vous dis, j'avais des clients là, de très hautement placés. Et j'ai aussi des gens. Après, il y a des histoires de crédit, des choses qui. Je pars du bout pas mal aussi. J'ai réduit beaucoup. Mais je connais, il y a des gens qui ont besoin aussi. Mais je me dis franchement, même la SDF, le clocheur qui passe, qui a besoin de boire une bière et qui n'a pas d'argent, et il me demande, ça m'a fait mal de ne pas lui laisser. Et souvent, ces gens-là, ils reviennent payer. Mais c'est leur besoin. Comme vous et moi, on doit manger. Alors, et si lui, il ne boit pas, peut-être qu'il est mal, alors je donne une canette ou des jambons, des choses comme ça, s'il veut. Hein. Puis il y a des familles qui vivent sur la Chartreuse, l'autre côté, sur rue Fernand-André, un peu bloqué, qui sont des autres origines, qui sont émigrés ici en France. Et puis ils ont des difficultés à vivre, ils ont des petits gamins. Bon, quand ils arrivent, je leur donne des choses, des repas, des...
Et dans la suite de la rubrique locale, donc là on était dans le super local, là on va passer au local plus large, on va parler du nouveau préfet, parce que du coup au début du mois dernier on apprenait la limogation du préfet Henri-Michel Comé. Et on a maintenant du coup le plaisir de connaître un nouveau responsable local de la police. Il s'agit de Stéphane Bouillon. Alors, on vous propose un petit portrait de ce préfet pour savoir un petit peu à quoi s'attendre. Donc, ce haut fonctionnaire, il s'est surtout fait connaître pour ses ennuis judiciaires. Ça commence en 2012. C'est à ce moment-là qu'il connaît sa première condamnation. Il est alors directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur sous l'ordre de Claude Guéant. Et en avril 2012, donc peu après l'affaire Mera, le ministère de l'Intérieur annonce l'expulsion de 5 personnes présumées terroristes suite à une note blanche des renseignements généraux. Et parmi eux, Ali, accusé à tort d'avoir joué un rôle dans les attentats de Marrakech en 1994, est expulsé devant la caméra de TF1. Donc pour ne pas avoir vérifié les informations émanant du service de renseignement, Stéphane Bouillon était condamné à 800 euros d'amende et à 7000 euros de dommages et intérêts pour diffamation. Donc Ali retourne en France 2 ans plus tard, après que le tribunal administratif invalide l'intérêt d'expulsion entaché d'excès de pouvoir. Donc, par contre, cette condamnation ne l'a pas empêché d'obtenir la Légion d'honneur 2 mois plus tard. Ensuite, ça continue avec, en 2007, une autre condamnation pour autorisation de permis de construire illégaux. Donc, il a également opéré dans le sud, où il a prouvé son attachement à la préservation du littoral. Donc, du coup, ces permis de construire concernaient la réhabilitation de ruines. Et tout cela pour une modeste, pour un modeste restaurant, et puis des villas, 7 grandes villas au bord de la mer. Donc, alors même que ses propres services de direction départementale des territoires de la mer avaient 4 mois et 4 fois émis un avis favorable. Donc, il a été poursuivi par des associations de protection de l'environnement et donc il a été condamné pour faute par le tribunal administratif de Bastia. Oui, bon. Et du coup, sur la question de l'environnement, enfin, pour poursuivre ce petit portrait, il a été nommé préfet du PACA en 2015. Et puis, à ce moment-là, il se rend célèbre pour avoir autorisé, avec l'accord de Manuel Valls, Premier ministre à l'époque, donc autorisé l'entreprise Alteo à rejeter ses produits chimiques, les fameuses boues rouges, à proximité du parc national des Calanques. Voilà, donc quelques éléments qui donnent le ton et qui nous prouvent que ce cher nouveau préfet, il va falloir le surveiller de près.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région ?
Vauquier.
L'Assistana est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française. L'Assistana est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir ?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme ? Quelle ferme ?
À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ?
Et oui, c'est le grand retour des Wauquiezeries. Alors cette semaine, on commence avec Laurent Wauquiez et le grand remplacement. Alors le grand remplacement, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est une théorie facho qui dit qu'en gros, on va être remplacé par les personnes qui seraient d'origine musulmane, voire même maghrébine. Ce serait vraiment tout à fait horrible. Et puis c'est très 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 probable. Hein. Regardez les personnes qui sont en position de pouvoir en France. Et vous vous rendez compte que le remplacement est très crédible. C'est porté en France par des gens comme Renaud Canu ou Alain Finkielkraut. Alors, ou le Front National qui le reprend assez largement. Laurent Wauquiez a déclaré que le grand remplacement, en fait, c'est une réalité qui suffit pour s'en convaincre, de se rendre compte, pour d'aller dans les quartiers perdus de la République. Et pour s'en convaincre, il a donné l'exemple de Saint-Étienne et de Firminy. Donc c'est dans la Loire, c'est juste à côté de chez nous. Hein. Cette sortie du président de la région Rhône-Alpes, en fait, elle est suivie de très près. Elle a même réussi à énerver le maire très à droite de Saint-Étienne, un certain Gabriel Perdriau. Et en fait, cette sortie, elle suivait une précédente presque aussi dégueulasse dans l'émission de télé qui s'appelle Le Grand Jury. Là, il a dit, moi je considère que l'étranger qui arrive, c'est à lui de s'adapter en France, n'est pas la France de s'adapter à lui. Je pense que c'est ça qui a permis la France d'intégrer pendant 100 ans des étrangers. Hein. Tout le monde jugera de la qualité de l'intégration des étrangers de partout. Un journaliste lui a alors répondu, à vous entendre, on a l'impression que c'est la théorie du grand remplacement culturel. Et Laurent Wauquiez rétorque, parce que Laurent Wauquiez a de la finesse, il ne faut pas se méfier. Ce n'est pas le grand remplacement culturel, mais il poursuit. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont des quartiers perdus de la France. Sortez du plateau de RTL, venez avec moi. Je vous prends dans ma voiture, on part de la place de Lyon, on fait 10 km en direction de l'ouest et je vous amène à Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, 10 km de Paris, le mec se rend bien compte. On ira ensuite à Firminy et vous verrez rapidement que la réalité, ça va vous sauter au visage. Alors évidemment, ce qui saute au visage, c'est surtout l'incroyable cynisme et la bêtise de Laurent Wauquiez qui reprend n'importe quelle théorie facho pour gagner 2 points dans les sondages. Le truc, c'est que Laurent Wauquiez, c'est pas seulement un facho, c'est souvent revenir à sa base. Et sa base argumentaire à Laurent Wauquiez, entendu dans le générique, c'est la dénonciation de l'assistanat. Ainsi, Wauquiez a de nouveau critiqué ce qu'il appelle le cancer de l'assistanat dans une vidéo Facebook Live diffusée sur sa page samedi dernier. Questionné par un internaute sur le sujet, le candidat à la présidence du Parti Les Républicains a critiqué les agents Pôle emploi qui iraient aux chômeurs. Donc les agents Pôle emploi diraient aux chômeurs, vous avez 2 ans d'assurance chômage, attendez un peu, profitez-en. typique de ce que dit un agent Pôle emploi, le mec est jamais allé dans un Pôle emploi. Quoi. Un système criminel, le mec parle de Pôle emploi comme un système criminel, enfin, ça devient n'importe quoi. Selon le président du conseil régional, où d'un côté il y a des gens qui cherchent un job et qui n'en trouvent pas, et de l'autre il y a des gens qui ne cherchent pas vraiment d'emploi et qui profitent du système. C'est complètement fou son truc. Qui partent tranquillement en vacances et qui n'en ont rien à faire. Alors on cherche les deux d'un côté et de l'autre, mais enfin bon, attention. Alors évidemment, il a été attaqué de toutes parts hein, par les syndicats de Pôle emploi pour cette sortie pleine de mépris de classe et finalement très à la mode. Enfin, il y a un autre thème qui est très très à la mode en France, notamment grâce à Stéphane Bern. Ce sont les châteaux, les églises de nos régions, ils sont tellement mignons. Et alors Laurent Wauquiez, évidemment, qui se vautre dans à peu près tout et n'importe quoi, a lancé ce lundi une opération, les sites régionaux qui font l'histoire de France. Donc les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est nous, hein, sont appelés à en choisir 12 parmi 50, j'espère que vous allez voter sur le site. Et il en a évidemment profité pour raconter n'importe quoi de cette nouvelle annonce. Alors les sites de cette liste régionale, vous pourrez les voir, hein, sont surtout ceux qui ne sont jamais allés à l'encontre d'un pouvoir centralisateur fort, hein, pas trop. Et Laurent Wauquiez, par contre, il a mis en avant le refus de suivre l'exemple de la Catalogne, genre la région Auvergne-Rhône-Alpes, indépendante demain comme la Catalogne, genre ouais. Et il a dit, nous, notre approche, c'est d'inscrire Auvergne-Rhône-Alpes dans la grande histoire de France. Et on croit plutôt à cette approche, comme nous, nous sommes inscrits dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'humanité. Le mec a absolument aucun problème avec le lyrisme. Et là, il ajoute, s'interroger sur nos origines, notre identité, sur les moments qui ont fait la France et les lieux qui en incarnent son passé, est devenu pour certains une transgression, presque un interdit. Ça, on revient, il n'y a pas très longtemps, il a dit que c'était regrettable que identitaire devienne une insulte. Sans deck. En dévoilant une histoire régionale façon carte postale, la nouvelle campagne de Laurent Wauquiez, clairement destinée à ses prétentions nationales, il dira actuellement la direction du Parti Les Républicains, semble interdire une histoire faite d'aspérité, de complexité, de nuances, etc. Un peu comme Laurent Wauquiez, quoi, bourrin et sans nuances.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et voilà, après avoir rigolé sur les bêtises de Laurent Wauquiez, bon, qui nous font rigoler, mais qui sont quand même bien réelles, et qui appauvrissent, voire détruisent quand même globalement ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, on va aller du côté de Toulouse. Et alors, sur une histoire qui est beaucoup moins drôle, qui remonte maintenant, mais qui remonte aussi un peu à la surface, puisqu'il y a eu la condamnation de l'ancien directeur de l'usine AZF et de la société Grande Paroisse, qui a été propriétaire de l'usine, qui a eu lieu ce mardi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'usine AZF. L'usine AZF de Toulouse a été détruite le 21 septembre 2001 par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium qui a entraîné la mort de 31 personnes, mais qui a fait aussi 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. À partir de cette explosion, il y a eu une longue série de procès, et dont le 24 septembre 2012, 11 ans après l'explosion, la Cour d'appel de Toulouse a condamné la société Grande Paroisse, propriétaire à ce moment-là de l'usine AZF, et son ancien directeur Serge Bichelin. La décision de 2012 a été annulée par la Cour de cassation, et c'est du coup ce mardi, le 31 octobre 2017, soit plus de 16 ans après les faits, que la Cour d'appel de Paris a condamné l'ancien directeur de l'usine AZF Serge Bichelin à 15 mois de prison avec sursis, et la société Grande Paroisse, qui était donc propriétaire de l'usine à l'époque, et une amende de 225 000 euros. Déjà, en avril 2017, à un moment donné où le procès se relançait, on pouvait lire sur le site d'information locale yata.info le plus long procès de l'histoire pénale française à court en ce moment à la capitale. C'est celui des présumés responsables de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001. Celui de Papon avait duré 6 mois, celui de Total, propriétaire des ZF, aura duré 3 fois 4 mois, soit un an. Autrement dit, en termes de spectacle judiciaire, le crime industriel supplante le crime contre l'humanité. Par Paradoxalement, ce procès n'a que très peu d'enjeux financiers pour les réparations dues aux victimes. Ce qui semble important pour les parties civiles, c'est la reconnaissance du crime et des préjudices physiques et moraux, la reconnaissance de leur souffrance par le jugement d'une autorité institutionnelle, la justice. Pour les personnes concernées, il est inadmissible qu'il n'y ait pas de coupables reconnus et sanctionnés depuis le temps. C'est là où certaines parlent de justice de classe en faveur des patrons. Ce procès est une œuvre judiciaire qui sert à établir une seule vérité officielle et publique sur les causes de l'explosion, à la certifier par des preuves. Toutes les pistes sont suivies et abandonnées au profit de la thèse officielle, la négligence de l'exploitant. Il sert à figer la vérité. L'intitulé du réquisitoire introductif de l'enquête est clair. Homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L'enjeu est de taille, car il s'agit de nommer les coupables et donc de dédouaner les suspects et des innocentés. Ici, point d'État ni de collectivités territoriales qui sont mises en cause. Pourtant, ce sont eux qui, au fil du temps, ont autorisé, voire initié ces implantations d'usines. Puis plus tard, ce sont eux qui ont participé à la construction des habitations, des infrastructures publiques, des grands ensembles HLM à leurs portes. Il fallait bien loger les prolétaires et leurs familles, chers à usines et à canons, sacrifiés sur l'autel du progrès. Deux personnes, membres du collectif Plus Jamais Ça, ont attaqué l'État devant le tribunal administratif pour mise en danger de la vie d'autrui. En première instance, la plainte a été rejetée. En appel, l'État a été condamné, mais le Conseil d'État a cassé la décision. Et donc à ce jour, l'État a été mis hors de cause. Ce procès est épuré de toute ambiguïté et les débats sont balisés. Ils porteront uniquement sur la recherche des causes et la condamnation des coupables, donc de l'exploitant et de son directeur d'usine. L'enjeu semble être de faire condamner Total, prouver que l'exploitant exploitait mal par manquement aux règles de sécurité. Une morale à l'histoire, il n'y a aucun problème sur ce type de production. Il y a juste des règles de sécurité à respecter pour exploiter proprement. Continuer à produire tout et n'importe quoi. L'explosion d'AZF a donné lieu à deux réponses législatives. La loi Cochet et la loi Bachelot, qui ont imposé une garantie financière pour les catastrophes technologiques et un lot supplémentaire de contraintes administratives pour les usines dangereuses classées Céveso. Finalement, aujourd'hui, à Toulouse, le périmètre réglementaire de sécurité prévu par le plan de prévention des risques technologiques autour des usines du site chimique ne concerne qu'une infime partie de la population, quelques dizaines de personnes. Alors que ces usines sont toujours à deux pas des quartiers populaires surpeuplés, qu'elles utilisent toujours des tonnes de produits dangereux en toute légalité et que le risque est toujours là. Le contrôle des citoyennes sur leur sécurité est quasiment inexistant. Au mieux, des associations peuvent poser un regard sur des instances consultatives par la photo-démocratie participative. On est loin du débat sur la pertinence et l'utilité sociale de la production. Cette explosion n'est pas une catastrophe comme on pourrait l'entendre pour un cataclysme climatique naturel et ses effets dévastateurs. À l'instar de Tchernobyl, d'un Fukushima ou d'un coup de grison dans une mine, il faut la prendre comme un acte d'agression prémédité au nom du profit, un acte de terrorisme peut-être. Cela ne s'arrête pas devant les tribunaux, mais par un changement radical de société. Ces procès, qui sont dits environnementaux, ont pour effet d'entériner des décisions de fait qui ne font courir aucun risque au système de domination, d'oppression et d'exploitation en vigueur. Regardez, la justice est juste, elle sait condamner les dérapages des pouvoirs quand elles se sont pressées par la vox populi. En pointant du doigt un dysfonctionnement du système, en le sanctionnant, elle fortifie le système dans son ensemble. Ici, le système techno-industriel. Elle satisfait les crédules, ceux et celles qui croient, preuve à l'appui, qu'il y a une justice ici-bas. Finalement, force est de constater que la lutte pour la fermeture des usines de mort se dilue dans les méandres des procédures judiciaires qui non seulement occupent et épuisent les riverains des usines et les militants, mais de surcroît orientent leurs préoccupations et leurs revendications. Du slogan « fermeture des usines de mort », on est passé au slogan « total responsable, pas d'impunité pour le crime industriel ». On perçoit clairement le déplacement du positionnement politique et la régression des aspirations à une sécurité réelle. Il n'y a pas eu de cri de joie ce mardi 31 octobre à 13h30. Les associations de victimes, réunies là, où s'élevait l'usine AZF, ont appris dans le calme la condamnation de Grande Paroisse, sous filiale de Total, qui était du coup, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là propriétaire de l'usine. Une condamnation qu'elles attendaient depuis si longtemps. Il n'y a pas eu de cri de joie, non plus à 800 km de là, dans le prétoire de la Cour d'appel de Paris, pour les parties civiles qui avaient fait le déplacement. Pas de débordement d'enthousiasme, mais un soulagement. Le début d'un soulagement, la reconnaissance d'une justice, mais ça ne suffit pas. Et si un jour on a envie que ces explosions s'arrête et que surtout la précarisation d'ouvriers et d'ouvrières s'arrête, c'est contre tout le système qu'il faut lutter et pas uniquement contre ses dérives et ses explosions.
Probablement tout un autre système contre lequel il va falloir lutter. On y est déjà même relativement habitué. L'état d'urgence, on en a parlé pas mal hein, depuis son introduction en 2015. Puis là, l'état d'urgence a disparu. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ?
Non. Non.
Et alors, qu'est-ce qu'on... Éventuellement, on vous dit quelques mots, on en a déjà beaucoup parlé, mais de ce qui se passe quand l'état d'urgence devient en fait la normale.
Oui, et du coup, l'état d'urgence, et effectivement, c'est la loi antiterroriste qui a pris le relais pour renforcer, en fait, au final, cet état d'urgence. Puisque, comme vous avez sûrement dû l'entendre dans les médias, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais à partir du 1er novembre, ce qui était du coup mercredi, c'est la loi antiterroriste qui prend le relais de l'état d'urgence. Donc, serait-on sorti de l'état d'urgence ? Point du tout, nous sommes rentrés dans un état d'urgence permanent. Et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va essayer de vous faire ici très succinctement un décryptage des principales mesures qui ont été prises et qui ont tout l'air d'un état d'urgence permanent et renforcé.
Donc tout d'abord, ça concerne des périmètres de protection autour d'un lieu ou d'un événement dans lequel l'accès à la circulation des personnes sont réglementés par arrêté des préfets.
Ensuite, il y a des arrêtés des préfets qui ne sont valables qu'un mois et ne peuvent être renouvelés que si nécessité de prolonger le périmètre de protection. C'est exactement la même loi, mais c'est en gros ce que vient d'être dit, ne dure qu'un mois. Après, ça peut se reproduire éternellement, donc ça ne change pas grand-chose.
Et pour entrer dans ces périmètres, les agents assurant la sécurité sont autorisés à procéder à des palpations et à des fouilles de sacs et bagages.
Cependant, les personnes qui refusent ces contrôles ne sont pas autorisées à entrer dans le périmètre de sécurité.
Quant aux lieux de culte, ils peuvent être fermés sur décision du préfet s'ils sont tenus des propos ou diffusés des idées ou des théories faisant l'apologie du terrorisme ou y incitant, en incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence. La fermeture doit être exécutée dans les 48 heures, sauf saisine du tribunal administratif en référé.
Et puis attention à vos propos en public et sur la toile et sur l'antenne de Radio Canut. Vous lirez l'article 3 de la loi antiterroriste qui s'appelle « Mœurs individuelles de contrôle et de surveillance ». Le titre est quand même splendide. Et qui renforce les sanctions et les mesures de contrôle administratif et de surveillance jusqu'à l'assignation à résidence contre les individus qui font l'apologie du terrorisme ou dont le comportement constitue une menace.
Les perquisitions et assignations à résidence sont également renforcées, mais aussi réglementées dans les conditions exposées à l'article 4, visite et saisie.
Visite et saisie, c'est le nouveau nom des perquisitions.
C'est super mignon.
On vous rend donc visite, mais pas avec des petits fours, bien sûr. La loi, dans son article 5, institue un contrôle du Parlement, qui est donc informé par les autorités administratives, donc là-dedans on entend les préfets, les procureurs par exemple, sans délai de tous les actes qu'elles prennent en application de cette loi.
Et les enquêtes administratives à l'encontre de certains salariés sont renforcées. De quoi il s'agit exactement ? En fait, il s'agit de la loi antiterroriste qui permet de procéder à des enquêtes administratives, je cite, « en vue de s'assurer que le comportement des salariés n'est pas devenu incompatible avec les fonctions exercées, l'accès au lieu ou l'utilisation des matériels et produits ». Donc en fait, il s'agit surtout des fonctionnaires qui sont en lien avec la sécurité publique, mais aussi les salariés qui assurent le transport public ou des matières dangereuses.
À cet effet, la loi autorise la consultation des données à caractère personnel. Et oui, et oui, et oui, en application de l'article 26, etc. Lorsque c'est le cas, le salarié peut être suspendu ou radié. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Et cette mesure est renforcée puisqu'elle était déjà prévue par une loi précédente de 2017 relative à la sécurité publique.
Alors, par contre, il y a plein de choses que la loi ne dit pas. Et du coup, c'est plus des questions auxquelles on va sûrement essayer de répondre rapidement. Mais voilà, ça reste un peu le mystère. Alors, tout d'abord, comment elle est financée, cette loi ? Quels sont les moyens humains qui vont être mis en place, considérant que les agents municipaux sont autorisés à contrôler les entrées dans le périmètre de protection ? Et quid de la police de proximité dont on mesure actuellement l'absence ? Ça, c'est encore le mystère.
En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça va donner plus de pouvoir à n'importe quelle fille qui va vouloir te perquisitionner en termes de violence. Ça va donner plus de pouvoir aux flics dans la rue pour être violent physiquement, verbalement, sur toute personne qu'elle va considérer dans son schéma de pensée comme suspecte. Et donc, attention à vous et la lutte continue.
Attention à vous, la lutte continue. Et comme sur Radio Canut, 19h35, sur la plus rebelle des radios, et qu'on a un petit peu d'avance, on voudrait passer un petit message à l'état de droit. Salut, bye bye, on s'est aimé.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu.
Tout n'est pas perdu puisque finalement la trêve hivernale est revenue. Du coup, peut-être un peu moins d'expression, on ne sait pas. En tout cas, on a perdu quelques degrés et un peu de soleil, ça c'est sûr. Bon bref, comme chaque année, la trêve hivernale est en vigueur depuis mercredi le 1er novembre. Cette période, qui prendra fin le 31 mars prochain, ne permet donc a priori, en tout cas dans les textes, plus d'expulsions locatives. Avec cette trêve hivernale, la préfecture active aussi, à partir normalement du coup de mercredi dernier, son dispositif hivernal d'urgence. Contrairement à ce qui se dit dans les médias pour cette année, pour la trêve hivernale, les squats bidonvilles et divers lieux de vie ne sont pas totalement protégés. Parce qu'on a entendu dans les médias que cette année, révolution, tout lieu de vie, donc ce qui se concerne, habiter n'importe où, que ce soit légalement reconnu ou pas, serait protégé par la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars 2018. Il y a en fait les principes et puis les à côté que nos politiques n'osent pas dire, mais n'oublient pas de mettre en œuvre. Le savoir est une arme, alors voici quelques clarifications utiles pour les galériennes de l'hiver. Quelques clarifications donc sur la trêve hivernale et les avancées de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 qui ont été mis en lumière par les collectifs nationaux Droits de l'Homme de Rome Europe. Ce qui change dans la loi en deux mots, toutes les dispositions relatives aux expulsions locatives de squat s'appliquaient auparavant à tous les locaux d'habitation. Une baraque de bidonville n'était pas considérée comme un local. Ces dispositions s'appliquent désormais à tous les lieux habités, dont les baraques, caravanes, tentes, etc. De fait, la trêve hivernale peut par exemple s'appliquer quand il y a une décision du tribunal prononçant l'expulsion des habitants ou lorsque le propriétaire est à l'origine de la demande de l'expulsion. Il assigne les habitants du bidonville devant le tribunal de grande instance le plus souvent. Mais si les personnes sont entrées sur le terrain dans le squat par voie de fait, ça veut dire en cassant un grillage par exemple, et que le propriétaire peut le prouver, alors le juge peut, s'il le souhaite, décider de supprimer les délais et ou le bénéfice de la trêve hivernale. Donc on voit vraiment là la faille, c'est si c'est par voie de fait, si le squat, en tout cas la manière dont les personnes habitent, a été déclaré par voie de fait, ça veut dire qu'on a vu qu'elles avaient fait une infraction, la trêve hivernale ne va pas s'appliquer. La trêve hivernale ne s'applique par ailleurs pas quand est pris un arrêté municipal préfectoral d'évacuation sous 48 heures. D'où toujours dans ces logiques, quand on squatte, d'avoir la preuve qu'on habite depuis plus 48 heures dans un endroit. S'il y a eu cet arrêté municipal ou préfectoral d'évacuation sous 48 heures, la trêve hivernale ne va pas s'appliquer. Donc il y a quand même un gros bémol à mettre sur tout ce qu'on entend dans les médias. Ah, ça y est, la trêve hivernale protège tout le monde. Non. Donc c'est bien de connaître la loi pour savoir aussi comment trouver les failles et pouvoir faire appliquer pour nous aussi la trêve hivernale quand on squatte ou quand on ne vit pas dans des locaux reconnus par l'État. Par ailleurs, aujourd'hui à Argenteuil, on a appris ce matin que des Roms ont été expulsés malgré la trêve hivernale. Donc il y a aussi tous ces principes de loi et puis il y a la réalité sur le terrain. Une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants, ont donc été expulsées ce vendredi matin du camp de Roms situé à Argenteuil. À la levée du jour, les forces de l'ordre se sont présentées sur place, accompagnées d'une société de démolition, afin de faire partir les familles. C'est une pratique qu'on connaît bien à Lyon, on l'a vu être mise en place plusieurs fois. Et donc, malgré la trêve hivernale, en place depuis ce mercredi, l'expulsion a bien eu lieu. En une dizaine de minutes, tout le monde avait quitté le camp. Les engins ont alors entamé la démolition des baraquements. C'est la mairie d'Argenteuil qui avait fait cette demande d'expulsion, faisant valoir le risque de péril pour ses familles et le trouble à l'ordre public. Évidemment, on n'a pas de honte dans ces déclarations. Ce qui lui a permis d'obtenir une décision d'expulsion, malgré du coup cette nouvelle loi, qui précise désormais que les lieux soumis à un répit saisonnier ne soient plus des locations d'habitation et plus largement les lieux habités. Ce qui normalement devrait protéger les bidonvilles, mais du coup on voit que même cette loi-là sortie pour mercredi n'est pas mise en place, puisque des personnes ont été expulsées ce vendredi. Par ailleurs, plusieurs expulsions ont eu lieu en France depuis quelques jours avant la trêve. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, quand on prépare ce type de loi, on se dit « Mais pourquoi ne pas expulser beaucoup de personnes avant ?» Comme ça, on sera toujours pas sous le couvert de la législation. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En une matinée, jeudi 19 octobre, trois campements ont été démantelés dans le département de l'Essonne. Évidemment, depuis le mois de juillet, ce sont pas moins de 4600 personnes qui ont été évacuées dans tout le pays. Du jamais vu depuis deux ans, les préfets ont bien compris que pendant la trêve hivernale, ils ne pourront plus expulser les personnes qui vivent en bidonville. Il y a donc une accélération vraiment inquiétante, sans solution de relogement, et ça depuis juillet. Mardi 31 octobre, les forces de l'ordre ont par ailleurs évacué à Marseille un bidonville où vivaient une centaine de personnes, dont 52 enfants, selon le recensement de plusieurs associations. À Lyon, c'est un squat rue Saint-André dans le 7e arrondissement qui a été expulsé le même jour, ça veut dire mardi. Les habitantes, environ 10 personnes et plusieurs enfants, n'ont pas de solution de relogement et habitaient dans ce squat depuis plus de 3 ans. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un grand mépris pour le fait d'habiter en squat en France et que même s'il y a une législation qui essaye de nous faire croire que cette année il y aura plus d'humanité, puisque c'est le terme qui est employé par les médias dominants en tout cas dans la gestion de la trêve hivernale, il n'en est rien. Et que du coup, les expulsions continuent, on l'a vu à Argenteuil, mais au-delà de ça, il y a un traitement médiatique extrêmement méprisant sur le fait d'habiter en squat en France, comme en témoigne le traitement médiatique de l'incendie qui a eu du squat Marieton vendredi dernier, du coup le 27 octobre. Donc pour vous rappeler, le 27 octobre dernier, un vendredi, du coup il y a une semaine, un ancien squat a brûlé rue Marieton. Il faut savoir que les habitants étaient partis quelques jours plus tôt pour éviter justement ces confrontations brutales avec la police, avec les flics, parce que c'est quelque chose qu'ils savaient qui allait arriver, puisque comme on le voit, comme plein d'exemples partout en France, c'est quelque chose qui arrive, quelle que soit la législation ou les principes publiquement. Et du coup, je vais vous dire quelques-unes de ces réactions de certains habitants du squat rue Marieton. Ils disent que justement la maison a brûlé juste après leur départ, que le voisin était quand même coincé au troisième étage. Les pompiers qui le secouraient ne déclarent aucune cause du départ de l'incendie, mais on peut lire dans la presse que l'immeuble était squatté. Alors, en quoi ça a un rapport avec l'incendie, on ne sait pas, mais on sait que, par exemple, c'est quelque chose qui a été exploité dans les médias pour parler de cet incendie-là. Selon la presse, un incendie s'est déclaré vers 5h30 du matin dans un appartement du bas. Globalement, on a vu pire en termes de désinformation dans les journaux, mais les titres donnent envie de répondre. Vide depuis plusieurs années, au rez-de-chaussée d'une partie du bâtiment, il y avait cependant un commerce et au troisième étage un locataire qui n'a pas été viré comme les autres. Faut dire que le garage Speedy, la pizzeria et l'immeuble sont sur une partielle vouée à être détruite bientôt. Oui, l'immeuble était squatté. Il était squatté, cela n'est pas la raison pour laquelle il a brûlé. Avant l'incendie, l'immeuble a vécu, anecdote et aventure. Une cinquantaine de personnes y ont mangé, dormi, dansé.
Donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a un traitement vraiment odieux de la question du logement en France actuellement. On peut quand même rappeler qu'en 2016, c'est 15 220 ménages qui ont été mis à la porte, un niveau jamais atteint en France. Il y a eu 1,78 million de jugements d'expulsion, ce qu'il faut quand même distinguer de l'expulsion effective en France rendue depuis 10 ans. Si on ramène ça à la population française, ça fait un locataire sur 10. On peut citer d'autres chiffres, hein, autre chiffre, même réalité. Depuis début juillet, plus de 4600 personnes, dont de nombreux enfants, ont été expulsées d'un bidonville ou d'un squat, soit près de 50 personnes par jour. Et si dans la moitié des cas, des solutions d'hébergement d'urgence ont été proposées, c'était seulement pour quelques nuits. Tout ça pour rappeler un peu la condition en fait dans laquelle on est maintenant et qu'on est bien content de voir les grands titres de la presse qui disent attention, arrivée de la trêve hivernale, mise en place du plan froid, ça y est, on n'expulse plus personne. La réalité, c'est qu'il y a une chasse anti-pauvre, qu'il y a une stigmatisation de modes de logement précaire, à même moment où on baisse les APL, où on n'a plus accès à un logement de manière générale, et où c'est une lutte qui est d'autant plus d'actualité en hiver comme en été.
Donc ça, c'est pour les réjouissances en métropole. Alors là, maintenant, on va parler de la Guyane, où il fait moins froid, mais où c'est tout autant la merde, parce que au cours de son séjour en Guyane, le président de la République a réitéré vendredi 27 octobre son soutien à la première heure au projet minier de la Montagne d'Or. Alors du coup, quand il était ministre de l'économie, Macron, il s'était rendu déjà là-bas en août 2015 et sur le site du permis de recherche, il avait été déclaré « Tout est fait pour qu'un projet de cette envergure puisse voir le jour et nous ferons tout pour ». Donc il est quand même resté prudent à ce moment-là sur l'avenir du projet qui fera l'objet d'un débat public dans les mois à venir en Guyane. Donc, du coup, par rapport à toutes les filières sur lesquelles le développement futur de la Guyane pourrait s'appuyer, Macron a abordé l'exploitation d'or, pour laquelle il souhaite faciliter l'ouverture de centrales. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faisait référence à la Montagne d'Or. Qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de mine industrielle donc en Guyane, avec un consortium russo-canadien qui s'appelle Nordgold Columbus Gold, qui prévoit de creuser une fosse de 2,5 km de long, 500 mètres de large et 400 mètres de profondeur en pleine forêt équatoriale à proximité de deux réserves biologiques. Donc assez rapidement s'est créé du coup en été 2016 un collectif qui s'appelle Hors de question, hors de question, voilà. Non mais à l'écrit c'est évident, mais à la radio faut souligner peut-être le truc.
OR,
ouais. Hors de... La polysémie des mots, c'est magnifique. Il y a une pétition contre cette montagne d'or qui a été créé et qui a rassemblé 192 000 signatures. Et donc oui, juste pour dire, ce collectif Hors de question, c'est quand même plus d'une centaine d'associations guyanaises qui se sont rassemblées. Le 19 septembre, la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser un débat en Guyane autour du projet minier, suite à une saisine de France Nature Environnement. Les regards se tournent désormais vers les réunions publiques qui seront organisées en 2018, y compris Emmanuel Macron qui dit « J'invite les Guyanais à s'intéresser à ce débat qui est un moment de transparence et de concertation. Il a pour objectif d'informer le public, mais aussi de faire évoluer le projet en fonction des avis recueillis et des décisions ne seront prises qu'à l'issue de celui-ci. » Voilà, très bien. Donc quelqu'un dans le studio mime un pipeau. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement tout laisse à croire que cette consultation est vraiment qu'une consultation de façade et qui fait que dans les faits, la vie des populations concernées ne sera sûrement pas écoutée. Et en ce sens, il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui qualifie cette consultation de tardive, alors même que les étapes d'exploration et d'études diverses sont déjà intervenues. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement du pipeau. Du coup, il y a quand même la Commission qui demande un moratoire sur ce projet minier. Pour Emmanuel Macron, le débat public aura à mettre en lumière les points de sensibilité en termes environnementaux, en termes d'accessibilité démocratique, en termes de répercussions économiques. Alors du coup, on n'a pas forcément le temps de traiter tous ces éléments, mais ce qui est important, c'est que du côté environnemental, en tout cas, en plus de la description, dans la destruction de plusieurs arbres, enfin d'une grande partie de cette forêt, l'usine de traitement de ces minerais utilise la technique de la cyanuration, j'ai pas l'habitude de dire ce mot, voilà, cyanuration, qui exige l'énergie de 20% de la consommation annuelle de la Guyane, quand même. Et le risque majeur de cette technique, c'est parce qu'il y a stockage dans des digues de millions de tonnes de boue cyanurée. Et du coup, juste pour se rendre compte un petit peu du risque que ça représente, on peut penser au fait que depuis 2000, il y a quand même 25 ruptures de digues semblables qui ont eu lieu dans le monde et qui ont causé des catastrophes écologiques considérables. La dernière, vraiment, qui a été très médiatisée, c'était le Brésil en 2015. On se rappelle des coulées de boue toxiques assez incroyables. Donc voilà, c'est ça que soutient Macron. Et du coup, si vous voulez plus d'informations, il y a un reportage qui a été fait par Reporter. Alors en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ont un problème sur leur site internet, on n'arrive pas à y accéder, mais je pense que ça va être résolu très vite et que vous pourrez trouver des informations là-dessus.
En attendant, il est 19h51 sur Radio Canus, c'est la fin des mauvaises nouvelles. Ce soir, on passe à la rubrique internationale.
And now in the Canu Info.
Rubrique international. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et on est immédiatement de retour à l'antenne pour le début des bonnes nouvelles et on est super ravis de faire entrer Claudio dans le studio. Claudio, tu viens de Bologne, je crois que tu fais des documentaires de manière assez sympa. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Oui, merci en fait. Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci à Radio Canu pour nous héberger ici. En fait, ce que je vais faire, c'est une vite présentation, surtout un petit récit d'une expérience qu'on a eue en Italie. Une expérience qui a à voir avec notre activité de production de documentaires et surtout sur à propos de la distribution, c'est-à-dire qui n'est pas seulement un truc économique, mais c'est aussi comme les mettre à la disposition des gens et du public et des personnes qui veulent accéder à ça. Et bon, on peut dire qu'en Italie maintenant, on est dans une phase historique dans laquelle c'est bien évident la crise des les moyennes, les possibilités de distribution traditionnelles. Donc c'est quelque chose qui, comme la technologie aussi permet, a créé un nouveau scénario où il y a une très très bon niveau de autoproduction. Ça veut dire que il y a beaucoup de collectifs qui sont en train de produire du matériel média très intéressant, et c'est quelque chose que quand on a réfléchi sur ça, ça nous a frappé parce que on a compris que l'effet de mettre en réseau ce type d'expériences dans un quelque chose qui c'était d'un côté un réseau solidaire, ça veut dire quelque chose qui pouvait faire mettre en dialogue ce type d'expériences, et aussi en moyenne de rendre accessible ces médias au public, c'était quelque chose sur lequel on pouvait travailler. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé avec notre groupe de production qui s'appelle SMK Video Factory, on a décidé de proposer à d'autres expériences indépendantes au niveau italien, surtout sur le documentaire, de créer un réseau qui maintenant s'appelle OpenDDB. DDB, ça vient da distribuzione dal basso, ça veut signifier che aussi la distribution peut être faite par le bas, ça veut dire d'une façon horizontale. Et on a justement essayé un peu de travailler sur les pratiques de la consommation culturelle qui ne satisfait pas notre exigence d'arriver et de construire de nouvelles aussi relations culturelles et économiques avec les gens qui cherchaient de s'en renseigner sur certains thèmes et donc de voir des documentaires. Ce qu'on doit dire, c'est que comme ça, la démarche qu'on a créée a abouti à créer les premiers portails où il est possible d'avoir 150 documentaires italiens tout en Creative Commons, que c'est quelque chose pour nous très important. Ça veut dire que ça dépend, il s'agit de documentaires qui très souvent ils sont produits avec des pratiques de cofinancement populaire, ce qu'on appelle maintenant crowdfunding. Autrefois, on avait des mots un peu plus pleins de sens, mais voilà. Et donc, on croit que la logique du Creative Commons qui libère de l'utilisation des droits économiques sur l'ouvrage, donc permet à beaucoup d'espaces libres, espaces sociaux, de projeter les ouvrages en étant dans la loi. C'est-à-dire on est en train de créer de nouvelles pratiques aussi d'échange pour permettre aussi aux espaces sociaux et associations culturelles. En Italie, on a la SIAE, que c'est quelque chose de terrifiant, que c'est une société de gestion des droits d'auteur qui a été condamnée aussi par...
C'est un peu la SSM.
Ils m'ont dit, je suis en train de comprendre un peu, de faire un peu la confrontation. Mais. Bon, et en tout cas, une autre chose très importante sur laquelle on a essayé de travailler, c'est de garder en fait l'effet de l'accessibilité aux ouvrages, mais aussi en donnant de la viabilité aux auteurs, parce que faire le documentariste, c'est pas quelque chose de facile dans la vie. Et donc, on a créé ce système dans notre site aussi, d'accès aux ouvrages à travers une offre libre, mais obligatoire. Ça veut dire, tu peux accéder aux ouvrages à travers une offre, donc ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens économiques d'accéder quand même. Mais c'est obligatoire quand même, tu dois donner quelque chose, même un centime. Et c'est quelque chose que pour nous c'est très important, parce qu'on n'est pas Wikipédia qui dit s'il te plaît, tu es vraiment une très bonne personne une fois pas chaque deux années. Et donc, ce sont tous des systèmes sur lesquels on est en train de se confronter aussi avec d'autres expériences européennes. On a déjà deux films entre France et Belgique qui sont inclus dans notre catalogue d'autodistribution. On n'est pas des distributeurs, c'est de l'autodistribution organisée en collectif. Le film français, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, il s'appelle La fête est finie, et c'est du collectif Primitivi de Marseille. C'est une très belle, très utile représentation d'un phénomène qui a à voir avec l'histoire des villes.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous redire le nom de ton collectif et comment est-ce qu'on peut vous trouver et vous suivre peut-être en italien et ou en français ?
Bien sûr. En fait, le site qu'on a lancé, il s'appelle OpenDDB, donc il est accessible aussi en français maintenant, avec www.opendb.fr.
Donc on tape www.opendb.fr.
Merci, parce que je vois que mon accent, ça peut empêcher, on parlait de l'accessibilité, mais c'est quelque chose qui a à voir avec. Et oui, ils sont disponibles plus de 100 documentaires italiens et européens avec des sous-titres en anglais et en français, donc vous êtes invité à faire un petit tour du site, et vous êtes invité aussi à faire passer les mots, à communiquer aux autres, à des gens qui font du médiativisme, qui font des documentaires, que c'est possible aussi se mettre en contact avec nous, parce que ce qu'on veut faire maintenant, après avoir créé un réseau italien, c'est justement de se confronter avec d'autres expériences au niveau européen et mondial.
Ouais, c'est super, parce que c'est ce qu'on essaie de faire en France aussi. Du coup, on va effectivement essayer de faire le lien. On s'excuse un peu d'être aussi bref en cette fin d'émission. On va essayer de s'autoriser un espèce de tout petit micro-agenda, puisque c'est
la
fin des bonnes nouvelles.
Oui, mais peut-être avant, peut-être rappeler, juste pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que des personnes, elles peuvent être amateurs, elles sont pas obligées d'être professionnelles. C'est plein de personnes qui font des documentaires. Et c'est des documentaires vidéo ou c'est aussi des documentaires audio? Juste pour...
C'est plutôt des documentaires vidéo, mais on est en train d'ouvrir aussi avec la musique et d'autres choses. Donc, c'est
donc
encore...
on peut vous contacter, quel que soit le mode d'expression.
Si,
qui passe
tout à fait. On est intéressé à l'expérimentation, c'est ça qui nous intéresse.
Merci.
Super, et on passe
quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et oui, alors est-ce que je parle très très vite? Oui, d'habitude, mais là, est-ce que je vais y arriver? On ne sait pas. Vous pouvez aller dès maintenant rencontrer et discuter avec le collectif Indice. Et où ça? Et ben en bar des clameurs qui se retrouve rue Béchevelin à côté de la Guillotière. Le collectif Indice, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif qui fait des brochures pour créer, pour lire des brochures, pour vous informer. Allez donc au bar des clameurs dès maintenant. Si vous n'allez pas faire ça, il faut savoir qu'il se passe plein de choses à Roibon depuis plus d'une semaine, depuis quelques